Jacques Munier, bonjour.
Bonjour Clara.
À 6h40 sur France Culture, vous avez décidé de revenir sur le débat à propos de l'intervention française en Syrie. Débat prévu en fin d'après-midi dans l'hémicycle de l'Assemblée.
Absolument. Je vous propose donc quelques éléments d'analyse et de réflexion. Merci Clara Lecoq-Réal. On vous retrouve à 8h pour un nouveau journal.
À tout à l'heure.
Le journal des idées, Jacques Munier.
Comme le rappelle Le Monde, la Constitution stipule dans son article 35 que le gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger au plus tard 3 jours après le début de l'intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n'est suivi d'aucun vote, ajoute l'article. Lorsque la durée de l'intervention excède 4 mois, le gouvernement soumet sa prolongation à l'autorisation du Parlement. On sait que l'intervention française n'a pas suscité d'une sacrée, de nombreuses voix critiquant cette action menée sans mandat de l'ONU. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou encore Laurent Wauquiez l'ont dénoncé, le Parti Socialiste, des personnalités comme Alain Juppé, Xavier Bertrand ou encore l'UDI soutiennent en revanche cette opération. Pour le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, ce débat permettra aux Français de voir qui, parmi les parlementaires en France, fait preuve d'une grande mansuétude, pour ne pas dire une grande faiblesse à l'égard de la Syrie de Bachar al-Assad, mais aussi de la Russie, et ce qu'ils feraient s'ils étaient aux responsabilités en pareilles circonstances. Dans le Figaro Vox, Antoine Vidkin revient sur le précédent de 2013 et analyse la situation actuelle au regard de celle qui avait amené le président Obama à renoncer à intervenir, alors que le régime syrien avait franchi la ligne rouge sur l'utilisation de l'arme chimique. Le régime était alors extrêmement affaibli et l'opposition armée, contrôlant plus de la moitié du pays, se trouvait aux portes de Damas. Dès lors, dans l'esprit d'Obama et des dirigeants occidentaux, existait une crainte que des frappes, même limitées, constituent l'élément déclencheur de la chute du régime. Le journaliste, auteur du documentaire Bachar Moulkao, rappelle qu'à l'époque, depuis l'Irak et la Libye, chacun était conscient qu'il fallait éviter de susciter l'effondrement d'un État sans être capable de garantir une alternative. De surcroît, la dimension confessionnelle faisait craindre une aggravation de la guerre civile et la forte présence des islamistes au sein de l'opposition conduisait à la prudence. Enfin, il fallait éviter de mettre en péril le délicat accord nucléaire avec l'Iran, accord visant à éviter le scénario cauchemardesque d'un Moyen-Orient nucléarisé. Aujourd'hui, la situation est bien différente et les frappes devraient permettre aux États-Unis, à la France et à la Grande-Bretagne, en faisant respecter une ligne rouge plusieurs fois rappelée, de démontrer qu'ils tiennent leur parole et qu'ils sont capables de s'en donner les moyens. Dans un monde dangereux où les rapports de force sont la norme, ce serait un signal important. D'autant qu'il semble bien que la longue série d'attaques chimiques, pas forcément plus meurtrière que des bombardements aveugles, mais constitutif de crimes de guerre, soit des défis adressés aux Occidentaux par le régime syrien, mais aussi par Poutine, qui n'a pas tenu sa promesse d'éliminer l'arsenal chimique du régime en 2013, sans qui pas un avion ne décolle en Syrie, et qui observe avec attention la réponse d'Occidentaux, dont il n'a de cesse de tester la résolution. Dans la perspective des négociations internationales sur l'avenir politique de la Syrie, reprendre un tant soit peu la main dans le conflit et sur des motivations dictées par le droit international ménagerait un faible mais réel avantage. Pour le quotidien libanais L'Orient le Jour, cité par Courrier International, les Occidentaux ont privilégié l'option la plus modérée. 3 cibles liées au programme d'armement chimique syrien, ni frappe symbolique, ni opération de changement de régime. Trouver le bon compromis entre ces 2 types d'actions sans provoquer d'escalade avec la Russie était la principale difficulté de la riposte occidentale. Un compromis qui laisse donc la porte ouverte aux pourparlers sur l'avenir du pays, phase essentielle de la fin du conflit. Contrairement aux déclarations triomphantes qui célèbrent chaque victoire militaire du régime, la partie est loin d'être gagnée, estime Ziad Majed sur le site de l'Obs. Des régions entières autour d'Idlib et d'Eraa, moins isolées et moins faciles à assiéger, restent acquises à l'opposition. La Russie et l'Iran n'ont toujours pas réussi à capitaliser politiquement sur leur succès militaire, ajoute le politologue libanais. La réunion de Sotchi fin janvier sur la situation en Syrie s'est soldée par un échec prévisible, mettant en lumière la difficulté pour la Russie à proposer une solution au conflit syrien. D'autant qu'après la victoire militaire se pose la question des déplacements forcés des populations. Le régime cherche à modifier la démographie confessionnelle du pays, notamment à l'ouest. C'est une forme de nettoyage ethnique. Et l'on apprend aujourd'hui qu'un décret de loi vise à exproprier et spolier les déplacés et réfugiés. Trop tard et trop peu, estime Dominique Moïsi dans Les Échos. En avoir fait si peu après des utilisations répétées d'armes chimiques par un régime cruel et cynique n'est pas glorieux, mais n'avoir rien fait aurait été bien pire.